France Culture.
Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
L'histoire de la musique ne retient que les musiciennes et les musiciens, les compositrices et les compositeurs. Rares sont celles et ceux qui ont survécu dans la mémoire collective sans avoir l'un de ces deux rôles. Les professeurs de musique, qui ont forgé les génies bruts qui provoquent tant d'émotions dans nos oreilles aujourd'hui, restent souvent tapis dans l'oubli, dans l'ombre d'une pédagogie souvent oubliée. Ce n'est pas le cas de Nadia Boulanger, sans doute la professeure de composition la plus connue du XXe siècle, elle qui a formé entre autres Aaron Copland, Leonard Bernstein, Quincy Jones et Philip Glass. Pédagogue exceptionnelle, dotée d'une vision très moderne de l'apprentissage et de la musique, elle revient dans ce troisième entretien au micro de Bruno Mont-Saint-Jean, enregistré en 1976, à la fois sur sa formation par Gabriel Fauré notamment, et sur les méthodes qu'elle a mises en œuvre avec un succès exceptionnel pendant toute sa vie. Un entretien passionnant donc, entrecoupé d'extraits de cours qu'elle donne encore à l'âge de 89 ans, c'est tout de suite, dans une émission diffusée pour la première fois le 2 août 1978.
Entretien avec Nadia Boulanger, une émission de Bruno Mont-Saint-Jean.
À celle qu'entre deux guerres Paul Valéry m'adressait un jour avec ces simples mots, elle est la musique en personne. Saint John Perse.
J'étais entendre un jour, invité par les Turcs, Œdipe en turc. Admirablement donné. Je connaissais Œdipe par cœur, comme nous tous. Alors, qu'on me dise en turc ne m'a pas gêné du tout. Je suivais la pensée et il jouait très bien. Il s'était mis en scène d'une manière merveilleuse ici, au Châtelet, je crois. Non, pas au Châtelet, au Tassar, je crois, peu importe. Mais ça a été une... Mais si je n'avais pas connu du tout, jamais au monde je n'aurais deviné que Œdipe était le fils de Jocaste et qu'il avait tué son père. Ça, alors jamais. Pas le moindre soupçon, c'est une chose qui ne peut pas vous venir à l'esprit. Alors le moment où vous savez, et bien que vous sachiez, le déroulement du drame se passe d'une telle manière que vous avez toujours la même surprise. Alors ça, je trouve miraculeux, et je remercie Dieu, mais je m'incline devant le miracle. Alors comme je vois quelqu'un que j'aime, je le vois depuis toujours. Si je pense à ma mère, qui est morte depuis longtemps, mais elle est avec moi présente, je la sens, ça dure. Ça dure, non pas du tout, j'ai pas de vision, vous comprenez, c'est pas ça, c'est pas une superstition. Elle est avec moi, elle est moi, je suis elle. Mmh. Le temps n'a pas touché à ça. Mon père est mort en 1900. Ça fait longtemps, j'étais une petite fille. Mais je le vois au moment où je vous parle. Il est avec nous. Il n'est pas dans le passé. Et c'est là où le mot de saint Thomas me frappe tellement. Il faut saisir la présence du passé, la présence du présent, la présence du futur.
Votre père n'a jamais été votre professeur
Pas du tout, pas du tout. C'est maman qui a pris les choses en main. Quand j'ai eu 7 ans et qu'elle a jugé que j'étais en état de commencer l'harmonie, elle a eu le courage, invraisemblable et qui m'a causé une impression qui ne s'est jamais effacée, elle a appris tout le traité d'harmonie par cœur, qu'elle n'avait jamais fait d'harmonie. Elle chantait, mais elle chantait comme quelqu'un de doué, un amateur doué. Et elle a appris tout le traité d'harmonie en me disant, il faut que tu répondes exactement, parce que moi, c'est un sujet que je ne connais pas. J'aimais beaucoup mes professeurs. J'ai eu avec eux des relations exquises, inoubliables. Mais mon juge, mon témoin, a toujours été maman. Parce qu'elle avait le courage de voir ce que j'étais et ce que je n'étais pas. Et au fond, je crois qu'elle n'a jamais estimé que j'avais fait tout l'effort qu'on pouvait attendre de quelqu'un. Mais en tout en étant, je ne sais pas, en profond accord avec moi, nous avons été si profondément liés.
Mais comment est-ce qu'elle pouvait apprendre un traité d'harmonie
Elle a appris mot à mot.
En le comprenant quand même.
En comprenant, elle était très intelligente. Alors, comprenant, elle comprenait bien sûr. Mais comprendre dans l'harmonie quand on n'a pas fait d'harmonie du tout, c'est comprendre à la surface.
Elle faisait ça pour vous aider dans votre travail ?
Ah, pour surveiller mon travail, elle surveillait tout. Elle prenait des leçons à chaque leçon, à mes leçons d'ordre. Elle notait toujours tout.
Très jeune, Nadia Boulanger entre au conservatoire où elle suit les cours de Vidal pour l'accompagnement, de Vierne et Guillemant pour l'orgue, de Vidor et de Forêt pour la composition.
Dans la classe de Vidal, j'ai eu la chance, n'allons pas énumérer tout ça, mais enfin d'avoir des camarades qui m'éblouissaient. Ils étaient sensiblement plus âgés que moi. Et il y avait des gens comme Jean Gallon, qui a été un merveilleux musicien. Alors, Paul Vidal était un homme qui s'intéressait à tout. Et moi, j'avais des curiosités sur tout. Alors, je lui posais des questions saugrenues. Mais un jour, il m'a dit, « Ah, j'ai ici un livre qui vous intéresserait probablement. » Je dis, « Qu'est-ce que c'est ?» C'est un livre, un type a eu la curiosité d'investiguer le théâtre à travers les siècles. Et il a découvert qu'on aille de l'opéra comique, des bouffes, le grand opéra, la musique religieuse, la musique du Moulin Rouge, qui avait 36 situations dramatiques et pas plus.
Où peut situer le niveau d'influence d'un professeur sur un élève ?
J'espère qu'il n'est pas trop grand. J'espère que s'il aide l'élève à se trouver lui-même, son influence est bonne. S'il amène l'élève à vouloir l'imiter, elle est mauvaise.
Et vous pensez aussi que quelqu'un qui a du génie, vous avez été l'élève de Forêt.
Oui, mais jamais il n'a parlé de lui-même. Toutes les années que j'ai passées dans la classe de Forêt, il n'a pas joué une fois une note de musique. Par ailleurs, en ayant l'air de rêver d'être autre part, et nous l'adorions, mais nous lui disons, ben aujourd'hui, il n'a pas beaucoup écouté. Et les années ont passé, et 10 ans ont passé. Et je suis venu le voir rue des Vignes, lui déjà malade, déjà très âgé. Et tout d'un coup, il m'a dit, j'avais abandonné la composition parce que j'avais trouvé, à juste titre, que ma musique était bien, mais inutile. Sans personnalité. Il me dit, je ne suis pas sûr que vous ayez bien fait d'abandonner la composition. Oh, du mon cher maître, s'il y a une chose de laquelle je suis sûr, c'est bien celle-là. Et quand la musique est inutile, je suis assez impitoyable avec les autres. Encore faut-il que je sois au moins avec moi-même. Et moi, quand la musique comme ça ne me faisait aucun plaisir, ça me faisait de la peine. J'ai peut-être été paresseuse, mais enfin. Et il va au piano. Et j'avais fait un exercice, j'avais 14, 15 ans, 16 ans. Il me joue une partie de variation que j'aurais jamais pu jouer moi-même. Et il y avait une variation qui était peut-être un peu moins inutile que les autres. Il me dit, il y avait tout de même quelque chose là-dedans. Moi, je l'ai embrassé. Et je lui ai dit, comment ? Vous avez pris la peine. Et ce jour-là, nous étions dit, oh, ben aujourd'hui, il ne fait pas grande attention. Et vous savez par cœur. Alors, il se souvenait de tout, mais jamais il n'a parlé de sa musique. Jamais, pas une fois.
Mais comment est-ce qu'un homme dont toute l'attention est dirigée vers son œuvre, comment est-ce que ce même...
C'était le compositeur, et là il était le professeur. Et alors là, en quoi existait la très grande influence que Fauré avait sur nous? Je sais que c'est une très grande influence qui a éclairé notre vie, qui a dirigé notre vie, qui nous a donné un sens de la dignité, qui nous a donné une vision si modeste, si tranquille, si détachée de soi-même, de la vie. Je ne sais pas, je ne peux pas l'expliquer, je sais que ce sont des années inoubliables. Et je me souviens toujours quand Ravel, car j'ai eu la surprise d'entrer dans la classe de Fauré pour y découvrir Ravel qui était encore là et qui faisait, comme j'en faisais alors, du contrepoint traditionnel. Moi, j'étais petite et je faisais du contrepoint, ça ne m'amusait pas tous les jours. Mais ça me paraissait très naturel que Ravel en fît. J'en faisais. Et puis des années après, je lui ai dit « Mais vous aviez déjà écrit Quatuor. Qu'est-ce que vous faisiez le contrepoint ? Il faut bien nettoyer la maison de temps en temps, j'en fais toujours. » Et Fauré accueillait donc Ravel ce jour-là qui lui avait parlé de son désir de mettre en musique les histoires naturelles. Et on peut imaginer que Fauré n'ait pu imaginer qu'on ait envie de créer de la musique sur ses poèmes. Et la manière très naturelle, très simple. Vous êtes vraiment sûr que vous tenez? Et quand Ravel lui dit oui, ah bien. Il n'a plus jamais dit un mot, parce qu'il respectait chacun de nous. Moi, j'étais, quand je suis rentré chez lui, une petite fille, ne sachant rien, faisant ses devoirs d'harmonie, ses devoirs de contrepoint, enfin rien. Eh bien, il faisait attention, quelquefois en le cachant, comme dans le cas de mes variations de chorale, où il avait semblé ne pas écouter du tout. Mmh. Mais il avait retenu, il avait trouvé qu'il n'y avait rien à dire à ce moment-là, il n'avait rien dit.
Ce qui fait que l'aspect extérieur des gens, en tout cas, ne révèle pas forcément leur véritable pensée du moment.
Oh, bah, nous ne voyons jamais qu'une partie des gens.
Vous savez que Fauré est controversé en dehors de France et que c'est un musicien qui est difficilement exportable. Est-ce que vous voyez pourquoi est-ce que cela est possible et...
Mais vous croyez que ça n'est pas plus simple que ça, c'est qu'il est en général ignoré. Maintenant, est-ce que vous voyez Racine adoré en Afghanistan?
Il se trouve que Racine parle français et écrit en français.
Oui, mais Fauré aussi. Vous vous souvenez, moi je ne sais plus la phrase de Gide, mais c'est en étant le plus national qu'on peut devenir le plus universel. C'est pas comme ça qu'il le dit, il le dit d'abord beaucoup mieux et autrement, mais l'esprit est ça. On n'imagine pas Mozart étant, je sais pas, norvégien.
Oui, mais on sent chez Mozart, par exemple, une influence italienne, une influence française.
Oui, mais on sent Mozart.
Mais on sent pas Mozart en tant que citoyen de Salzbourg.
Oh, êtes-vous sûr? Est-ce que je dirais exactement la ville de Strasbourg est passée à la porte? Non. Alors ça, je n'irai pas jusque-là. Dans la vie de Mozart, il y a la présence merveilleuse et tellement injustement jugée de Léopold Mozart. Mmh. N'est-ce pas qu'il lui a fait gagner tant d'années par cet appui qu'il lui a apporté, cette exigence qu'il a su montrer. Alors, ça n'est pas aimer un enfant que de lui céder ses caprices. C'est de sortir de lui le meilleur, de lui apprendre à aimer le difficile. Eh bien, Léopold Mozart apprenait à son fils à surmonter l'impossible. Il lui faisait faire tout, il savait que le petit pouvait. Mmh. Il avait l'intelligence de comprendre. Il ne lui a demandé que ce qu'il pouvait, mais il pouvait tout.
Mais en même temps, il l'a fait voyager, il lui a fait connaître le monde extérieur.
Oui, pourquoi pas.
Non, mais lorsque...
Est-ce que vous croyez que ça a changé beaucoup la musique de Mozart? Je ne suis pas sûr. Bach n'a presque pas voyagé du tout. Bah, il a évolué en gardant son unité. Et Mozart reste toujours Mozart. Si vous regardez les dessins de Dürer, c'est effrayant. Un jour, il fait un chef-d'œuvre avec une petite plante au milieu d'une gravure. Et puis une fois, la Mélancolie ou Saint-Georges. C'est le même Dürer. Et c'est le même Valéry allant aux confins de la pensée et puis restant près du berceau de sa petite fille et lui racontant des contes. C'est le même Stravinsky écrivant tim-bim-boum, boum pour ses enfants. Et puis il écrit sa symphonie de psaume ou Requiem Canticus.
Mais vous m'accorderez que cela a relativement peu à voir avec la nationalité.
Écoutez, est-ce qu'on ne sent pas que Stravinsky est russe? Il y avait un très joli article il y a des années, ou très longues années, du Casella, disant qu'il y a deux manières d'être national, par la pensée ou en costume.
Pour Fauré, vous pensez donc que le fait national a quelque chose de très important.
Et puis la profondeur de la pensée, cette pensée tellement passionnée d'une part et détachée de l'autre, avec une telle pudeur, qui a un peu ce rapport avec Socrate disant « Et maintenant nous nous quittons, vous pour vivre, moi pour mourir, je me demande qui a la meilleure part. » Eh bien, il y a quelque chose qui est tout Fauré et tout en dehors de Fauré. Difficile à expliquer. Qu'est-ce qui fait qu'on commence le mouvement lent du deuxième quintet? Et puis on sait qu'on a fait quelque chose d'extraordinaire. J'ai un de mes élèves qui a été prendre une leçon de piano. C'est quelqu'un de très connu, ma foi. Et le professeur lui a dit, c'est tout de même terrible de penser que je suis un artiste, que j'ai un certain talent et que je suis obligé de donner des leçons. Et mon élève, mal élevé mais bien inspiré, lui dit, eh bien monsieur, si vous perdez votre temps à donner des leçons, c'est pas avec moi que vous le perdrez, car moi je m'en vais. Et il est parti. Je lui ai dit, vous êtes très mal élevé, mais vous avez très bien fait de lui dire. Parce que personne n'est obligé de donner des leçons. Mais ça vous empoisonne la vie si vous donnez des leçons et que ça vous ennuie.
Vous pouvez être plus ou moins intéressé par la personnalité de l'élève.
Oui, mais alors c'est intéressant de découvrir pourquoi il ne vous intéresse pas.
Mais vous-même, vous ne pourriez pas donner des leçons à un élève pendant plusieurs années.
Mais ça, plusieurs années, non, parce que je pense que si, au bout d'un certain temps, je vois qu'il n'a pas de don, je lui dirais, écoutez, je crois que vous avez tort de poursuivre dans une voie qui n'est pas votre voie. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'oreilles, qui ne sait pas grand-chose, et qui prend la peine de l'apprendre, de développer ce qu'il connaît sans en avoir les dons, peut rendre très grand service en montrant que d'apprendre le métier est déjà une conquête, est déjà un progrès, est déjà un assouvissement d'un désir intérieur.
C'est de favoriser l'épanouissement.
C'est d'essayer de comprendre l'élève tel qu'il est. Et surtout pas tel que je suis. Quand il me répète ce que j'ai dit, j'ai écouté. Ça, c'est rien. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le mal à droite, dites comme vous voudrez. Et si vous n'en pensez rien, dites que vous n'en pensez rien. Et puis apprenez vos règles, parce que vous apprenez, ça c'est un autre domaine. C'est la machinerie.
Mais alors les règles?
Ah ben ça, il faut les apprendre par cœur, comme il faut apprendre la table de multiplication. Parce que c'est compliqué quand il faut compter et qu'on multiplie mal ou qu'on divise mal.
Mais en un sens, donc, on n'a pas besoin d'être Nadia Boulanger ou Gabriel Fauré pour enseigner des règles à quelqu'un?
Il faudrait n'en avoir pas besoin. Il faut que nous fassions très attention de ne pas vouloir trouver du génie partout. Parce que si je suis assez exigeante pour marquer à quelqu'un que je me demande s'il fait bien en se dévouant à une vocation quelconque, si sa vocation n'est pas très sûre, s'il me dit, oh, j'hésite, je voudrais me marier, je me demande, Jeanne ou Marie. J'ai dit, écoutez, Antoine, ni Jeanne ni Marie, nous verrons après qui. Mais si vous hésitez entre les deux, ben, c'est une autre qu'il faut épouser.
Comment est-ce que vous pouvez faire directement avec un élève qui vient vous trouver et,
J'essaie de faire parler.
Oui, mais il vient peut-être faire de la musique ou autre chose. Il n'a pas forcément encore choisi.
Oh, mais s'il vient n'ayant pas choisi, alors je dirais tout à fait autre chose. Je dirais que tout enfant, à partir de 4 ans et demi, a le droit de savoir que ça c'est sa main droite, ça c'est sa main gauche. Que vous n'êtes pas habillé en jaune clair, il connaît les couleurs. Et moi je ne comprends pas pourquoi il ne connaîtrait pas les sons. Pourquoi il ne connaîtrait pas les sons, même s'il ne doit jamais devenir un musicien? Mais il apprend des mots, il apprend des gestes, il apprend des signes. Et il y a un seul domaine où il n'apprend rien, c'est le domaine de la musique. Alors, il arrive à 5 ans, 6 ans, 50 ans, 70 ans, il entend, il ne sait pas ce que c'est une autre son. Alors, il a l'émotion, la répercussion nerveuse d'un rythme qui se développe, d'une mélodie qui se développe, de combinaisons de sons qui peuvent lui donner même une très grande émotion, sans qu'il devienne jamais un musicien professionnel. Mais de connaître les sons n'enleverait rien à son émotion.
Ça vous est arrivé de traiter des gens plus ou moins doués
et
des gens...
Ah mais plus ou moins doués, si je vois qu'ils peuvent faire quelque chose. J'ai une élève qui a vraiment fait de tels progrès en 25 ans qu'elle peut aujourd'hui professer dans une petite ville, dans une petite université, très honnêtement. Le piano a des gens qui font du piano, ils ont envie de faire un peu de piano. Elle gagne sa vie très bien, elle fait ce qu'elle fait très proprement, parce qu'elle a appris, elle travaille beaucoup. Elle a une vie, elle a une place dans la société où elle vit. Pourquoi est-ce que je lui dirais il faudrait être sans pommette ou rester? Qu'est-ce qu'il ferait? Il ne saurait pas même le faire. Alors, il y a une limite à la vérité que vous devez dire, que vous pouvez dire. Il faut, dans la mesure où vous êtes convaincu qu'il y a un progrès à attendre, vous devez soutenir la confiance. Si vous croyez qu'il n'y a nul progrès à attendre, mais que d'autre part, vous ne conduisez pas quelqu'un au suicide. Alors si vous savez que vous allez désespérer, par pitié de nouveau, vous le soutenez en essayant de l'éloigner. Il y a des années, une dame est venue me trouver, mademoiselle, notre fille qui est une arriérée, a fait un rêve fou. Elle veut avoir des soins avec vous. Nous savons qu'elle ne peut pas faire de progrès, que ça ne peut lui servir à rien. Mais elle est si malheureuse déjà dans la vie. Voulez-vous lui donner quelques soins? Je lui dis, madame, j'ai peur parce qu'il faudrait avoir une dose de patience. Est-ce que je l'aurai assez grande? Mademoiselle, essayez. Heureusement, le père était nommé autre part. Ils sont partis au bout de quelques mois. J'ai tenu le coup. Mais je me disais, je ne peux pas me permettre d'avoir une minute d'impatience. Parce qu'elle ne peut rien. Alors, est-ce que comme j'enverrai un paquet de bonbons à quelqu'un qui est malade, ben, je lui donne une leçon. Ça n'est plus de l'enseignement. Ça n'a plus rien à voir avec l'enseignement. Et si ça se multipliait, vous direz, malheureusement, je n'ai absolument aucun temps libre. Et puis, mais vous vous en voudriez. Parce que vous diriez, si je peux, à quelqu'un qui n'a rien, apporter l'illusion d'une joie, c'est tout à fait d'un autre domaine. Alors, c'est fait de telles nuances, les évaluations de nos activités, de nos réactions, vous ne pouvez pas les classer d'une manière générale. Vous êtes obligé de les classer d'une manière particulière. Et chaque fois, c'est un nouveau problème.
Oui.
Je crois.
De la même manière, d'ailleurs, que j'imagine... Que l'harmonie a beau être l'harmonie, vous devez l'enseigner différemment à un enfant qui a 10 ans,
mais écoutez,
en fonction du...
Mais quand Jean-François était tout petit, il devait venir... J'ai jamais enseigné beaucoup d'enfants, j'ai eu très peu de cas, et des cas de tel don que ça ne prouve rien. Enfin, donc, il devait venir pour sa leçon d'harmonie. Et moi, je me disais, il faut lui expliquer ça. Que ce soit de la modulation ou des accords. Je dis, comment, qu'est-ce que je vais faire? Ça me tenait éveillé la nuit, je me tourmentais, puis je cherchais... Alors je dis, tu sais Jean, aujourd'hui nous allons travailler les accords. Alors les accords, elle me dit, ah oui, comme ça, et puis il me joue l'accord. Au bout de deux mois, j'ai dit, même, je ne sais pas pourquoi nous perdons du temps de faire travailler l'harmonie, c'est l'harmonie. Je ne sais pas comment, mais là, c'est faisons du contrepoint.
Et alors le même phénomène, c'est renouvelé?
Le contrepoint, il a travaillé, parce que là, il y a une lutte intellectuelle qui est indiscutable.
Quelle est l'utilité? Vous enseignez l'harmonie et vous enseignez tous les différents aspects de la musique. Vous enseignez le contrepoint, vous faites travailler le rythme. Vous n'êtes pas sûr que ça va servir directement à chacun des étudiants qui viennent vous trouver?
Non, naturellement. Dernièrement, quelqu'un m'a demandé, pouvez-vous me donner la liste de vos élèves américains? Moi, je suis impossible. Alors, ces malheureuses qui sont ici ont recherché. Elles ont trouvé un nombre impressionnant. Seulement depuis 34, je crois, 400, je ne sais quoi, élèves américains. Enfin, Les noms, il y en a certains, je me souviens à peine de qui ils étaient. D'autres rayonnent dans mon esprit parce que tout ce qu'ils ont fait dans leur caractère, dans leur vie, dans leur manière d'être, est merveilleux. D'autres, bien, moyen. Est-ce qu'il fallait décourager tous ceux qui n'étaient pas de première classe? Je ne crois pas, parce que je crois qu'il faut remplir certaines conditions essentielles et puis après donner la place à chacun pour une fonction déterminée. Je dis ça sans aucune ironie, mais il ne faut pas les mêmes fonctions intellectuelles pour être le concierge que pour être le chef de cabinet des affaires étrangères. Mais vous pouvez être quelqu'un de bien mieux moralement en étant le concierge que le conseiller du personnage. C'est tout à fait une autre question, mais vous devez conduire vos activités dans la limite de ce à quoi vous aspirez. Et bien, si vous aimez, j'avais ma vieille, chère vieille femme de la campagne, Madame Duval, elle cirait les meubles, et puis elle lavait le linge. Et alors elle venait au salon, elle frappait très timidement, elle dit « Je sais que mademoiselle n'aime pas être dérangée, mais il brille de telle manière qu'il faut que mademoiselle le voie. » Et je venais admirer le meuble qui brillait. Et puis un jour, elle me dit, « Vous savez, mademoiselle, je n'aime plus laver. » Mais j'ai dit, « Écoutez, vous êtes vieille, vous devez vous reposer maintenant. Vous avez tant travaillé toute la vie. » »« C'est pas ça, c'est à cause des élèves de mademoiselle. » Je dis, « Est-ce que quelqu'un n'a pas été courtois avec vous ?»« Oh, ils sont très gentils, ces demoiselles. » Mais vous savez, comme dans le temps, je lavais la chemise de mademoiselle, ou de madame Lamy, ou de madame Duval. Ben, je savais que c'était la chemise de madame Duval. Alors je pensais à madame Duval, à madame Lamy, à mademoiselle. Elles ont toutes le même modèle de chemise. Bien lavé, vous en lavez une. Si vous avez la seconde, vous avez l'impression que vous n'avez pas lavé la première, puisque c'est la même. Eh bien, ça m'ennuie maintenant. Et je dis, vous ne savez pas quelle grande leçon vous nous avez donnée en matière d'art. Si tout le monde écrit le même modèle de fugue, avec le même nombre de mesures, avec le même contrepoint, c'est un ennui mortel. Mortel. Et chaque fugue de quelqu'un qui est doué sera peut-être ratée, sera peut-être imprévisible. Il y aura une invention. Et nous travaillons en ce moment le clavecin bien tempéré. Moi, j'ai pris le deuxième volume de la fin parce qu'on ne le lit jamais jusqu'au bout. Alors, nous allons de la fin au commencement du deuxième volume. Et je m'émerveille, et j'espère que mes élèves s'émerveillent, de voir que c'est toujours ce rapport de la tonique et de la dominante, de la dominante et de la tonique. Le rapport de 1 à 5, de 5 qui retourne à 1 ou qui irait vers 10, mais qui vraiment retourne à 1. Les tons sont les mêmes, en fait, tout est à peu près pareil. Et chacune est complètement différente. Et moi, je les connais depuis 80 ans. Et bien, je les découvre tous les mercredis. Je crois que c'est moi qui m'amuse le plus du cours. Parce que je me dis, femme et fado, la seule arrêt. Nous chantons la fugue en fa majeur. Enfin, on peut voir ce que ça peut donner, Émile au piano.
Pour prendre un tempo raisonnable.
Oui, oui, un peu raisonnable. Alors, pas de tortue fatiguée. À deux, vous partez courageusement. Un, deux, un, deux. Pardon, sans regarder la musique. Qu'est-ce que vous avez déjà fait?
1-5-1.
Ah, ça c'est un peu trop elliptique.
Oui.
C'est vrai, mais ça c'est toujours vrai.
Il y a l'endroit où c'est phrasé par trois.
Ça par c'est trois, un détail. Vous avez d'abord établi quelque chose.
Fa majeur.
Fa majeur, un ton. Et après? Vous avez fait n'importe quoi?
Une réponse. On a établi
comment, une réponse à quoi?
On a établi la réponse au sujet,
elle
la réponse tonale.
Alors, il faut dire qu'il y a eu un sujet.
Ah oui, oui.
Okay, je ne peux peut-être pas parler de la réponse quand je n'ai pas de sujet.
Ah oui, mais...
Alors, j'ai donc établi un thème charmant, spirituel, joue-le dans son vrai mouvement. Continue.
Ah bon.
Mais est-ce qu'il est tellement désespéré qu'il tient à se suicider, se noyer sous la pédale?
Non, je sais non.
Moi, j'ai l'impression qu'il est bien, puisque tout va si mal, noyons-nous. Eh bien, non. Qu'est-ce qui se passe dans ces mesures?
C'est un conduit.
Et dans ce conduit, il se passe quoi?
Il y a les deux voix, le soprano et le contralto qui ascendent, et puis il y a la basse qui entre au-dessous.
Oui, mais ils font n'importe quoi, ce contralto et ce soprano.
Mais il y a une imitation, une marche où il y a se froisser par trois temps au lieu de par deux temps.
Oui, mais qu'est-ce qu'il y a de particulier, d'accord?
La marche est en des groupes de trois au lieu de deux.
Et qu'est-ce que vous trouvez de particulier, Roland?
Que c'est un contrepoint renversable.
Oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Mettez-vous au piano, jouez-le, sans la musique. Ah, écoutez, c'est pas moi qui vous ai fait dire contrepoint renversable.
Je vais me suicider, mademoiselle.
Non, mais parce que jusqu'à un certain point, vous avez raison et vous n'aviez pas la voix convaincue de celui qui sait ce qu'il dit. Il dit un contrepoint renversable. Alors moi, qu'est-ce que tu dis?
C'est que on peut changer la hauteur des voix, c'est-à-dire on peut mettre ce qui est au-dessus en bas, c'est-à-dire le soprano peut remplacer.
Oui, bon.
Et puis,
alors moi je crois qu'il y a deux choses, c'est que c'est un conduit qui développe une partie du sujet, c'est-à-dire qui fait. Et puis ce sont des syncopes qui se suivent et qui alternent dans les deux voix.
Oui.
Et la syncope qui est dans une voix pendant que l'autre voix ne fait pas.
Oui, oui, mais alors des syncopes qui alternent entre deux voix.
Oui.
Et qu'est-ce que tu as à dire d'autre?
La marche nous conduit à l'entrée pour revenir en Fa majeur. Parce qu'on était arrivé en Do, puis on est allé en Sol, puis en Si bémol, puis en Ré mineur, pour revenir, pour faire l'entrée de Fa majeur.
Ça s'est parfaitement bien passé. Oui, mais qu'est-ce qui donne une caractéristique à ces mesures?
On a l'impression que les deux voix se courent l'une l'autre et que l'une veut attraper.
Oui, oui, mais alors, elle provoque et elle projette l'intérêt où?
Sur la note, sur la valeur longue.
Sur la valeur longue, qui se trouve où?
Sur le deuxième temps.
Au deuxième temps, comment? Je reprends le passage et chante-moi la note longue.
Mi, si, verso, ré, non. Si. Oui, mais il n'y a pas partout au second temps.
Enfin, donc, ces syncopes sont placés d'une manière qui a une fantaisie. Ça n'est pas strictement symétrique. C'est presque symétrique, mais pas tout à fait. Bien, tu prends l'entrée de la basse et tu continues. Alors, voilà. Alors, pardon, joue seulement les entrées de ta 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 ta. Dans la première pièce, ou une des premières pièces qu'a joué Yvonne Printemps, elle était une jeune fille qui avait pour ami très intime un monsieur, plus tout jeune, et un jeune homme très beau, qui était Sacha et Lucien Guitry. Et on la préparait pour qu'elle fasse ses débuts au théâtre, de façon à être une actrice connue. Et elle devait entrer en scène adorable comme elle était, très élégante, l'impression d'avoir 18 ans, elle n'avait pas beaucoup plus d'ailleurs, et elle devait dire « je naquis un dimanche ». Et elle arrivait, toute nerveuse, toute brouillée, elle « je maquille, je quina un mandi ». Et elle a eu le triomphe avec ça. Je quina un mandi. Et tout le monde dit bravo, bravo, bravo. Le succès du soir a été atteint à la première, sa première entrée. Eh bien, c'est Rédomi au lieu de Rémido. C'est la même chose. Seulement alors, oui, mais alors, si j'ai une grande invention, je fais ça de famille Rédomi au lieu de faire ça de famille Rémido. Et j'en tire parti. Stravinsky écrit dans les premiers livres de mémoire, celui qui ne tire pas parti d'une fausse note n'est pas un compositeur.
C'était la troisième partie des entretiens avec Nadia Boulanger au micro de Bruno Mont-Saint-Jean, diffusée pour la première fois le 2 août 1978.